rendez-vous.
Rendez-vous.
Bonsoir.
Bonsoir.
Nouveau.
Nouveau.
Ce soir.
Rebonsoir ou bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent. On est très heureux de vous retrouver en cette heure un peu tardive, campagne pour les européennes oblige. Ça fait un peu dernière séance et ça tombe bien car ce soir on va parler cinéma. Hier, ouverture du Festival de Cannes avec sur l'affiche une indépendante s'il en est, Agnès Varda. Faut-il y voir un signe de vie ou de mort? Un peu à l'image de notre cinéma indépendant, de plus en plus inquiet quant à son avenir. D'ailleurs, le président de la République, lundi, appelait les professionnels de la profession à s'unir pour mieux gagner la bataille face aux nouveaux concurrents internationaux et bien sûr le numérique, je pense à Netflix et Amazon en tête. Une réponse présidentielle attendue suite aux nombreux appels, tribunes et lettres ouvertes publiées depuis quelques semaines. Le cinéma indépendant français est-il vraiment en danger? D'abord, c'est quoi le cinéma indépendant? Produire, diffuser un film indé, c'est encore plus qu'avant le parcours du combattant. Et puis le problème, comme l'a dit la grande Catherine Deneuve, c'est peut-être que nous produisons trop de films en France. Autant de questions que l'on va se poser avec cet indépendant de Benoît Lagane. Cinéma français, ça tourne ou ça coupe? Pour y répondre, un casting 4 étoiles, la productrice Catherine Bonmarchand qui défend Marc Fitoussi, que j'adore, Sébastien Marnier, que j'admire. Bonsoir à vous.
Bonsoir.
À vos côtés ou non, face à vous, le cinéaste Michel Leclerc aux 400 000 entrées, c'est pas mal hein, pour une lutte des classes. Bonsoir.
Bonsoir.
Deux journalistes, François Barge-Prieur des Fiches du cinéma et Véronique Lebris de Ciné Woman. Bonsoir à vous deux.
Bonsoir.
Le NRV et la suite, action.
France Inter, le nouveau rendez-vous, Laurent Goumard.
Benoît.
Oui, le cinéma français, c'est une exception culturelle française. Et ce n'est pas nouveau. Là où de nombreuses cinématographies ont abdiqué, la France, notre beau pays, Laurent, a toujours réussi à se maintenir sans se faire écrabouiller par l'invasion culturelle américaine d'après-guerre. Ça a commencé déjà là. Et puis, a réussi à pas se faire écrabouiller par la télévision, qu'elle a même fait raquer pour financer le 7e art.
Oui, mais ça va s'arrêter.
Voilà. Mais depuis quelques années, pour autant, on entend un son de cloche de plus en plus alarmant. Hier, au nouveau rendez-vous, nous parlions de l'effondrement de la biodiversité. Et aujourd'hui, on parle
c'est
du cinéma indépendant.
C'est la même chose pour le cinéma.
Ben oui, et si le cinéma français était en voie de disparition, ou si plutôt les espèces les plus fragiles étaient sérieusement menacées. Écoutez la cinéaste Pascale Ferrand.
En assimilant les films à vocation artistique aux films pauvres et les films de divertissement aux films riches, en cloisonnant les deux catégories, le système actuel trahit l'héritage des plus grands cinéastes français et leur volonté acharnée de ne jamais dissocier création cinématographique, point de vue personnel et adresse au plus grand nombre.
Alors ce discours de Pascale Ferrand, c'était en 2007 déjà au César. Et à l'époque, elle n'avait pas encore trouvé refuge sur Canal+ pour co-signer la série Le Bureau des Légendes. Mais l'alerte était déjà donnée. 12 ans plus tard, on en est encore là, Caroline Bonmarchand. La situation est aussi difficile?
La situation des films du milieu, vous voulez dire?
Oui,
les films du milieu sont très compliqués. Michel est bien placé pour le savoir, puisqu'il fait partie de ces cinéastes voilà, qui font des films entre 4 et 7. Aujourd'hui, ça fait un peu des
millions.
4 et 7 millions, pardon.
Ah, millions. Et on peut dire millions, c'est pas un gros mot.
C'est vrai. Et aujourd'hui, la raréfaction en fait, des financements ou la baisse des financements fait que ça s'est déplacé plutôt vers entre 3 et 5. Aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle les films du milieu. Et oui, c'est des films qui sont très compliqués à faire.
Michel Leclerc, vous confirmez?
Ils sont compliqués à faire parce que c'est un peu... Souvent, on les voit comme des films nini. C'est-à-dire des films ni pour un public populaire, ni... Enfin, voilà. Alors que ça doit être des films et. Et donc, en tout cas, moi, c'est ce que j'essaye de faire. Ils sont certainement difficiles à faire, mais je pense qu'il y a vraiment un vrai, et c'est le principal, public pour ces films-là. Et c'est la raison pour laquelle il faut qu'il y en ait même de plus en plus. Donc, il faut trouver le système de production qui correspond au développement de ces films-là.
Mais ces films du milieu, c'est des films indépendants, finalement, par rapport à ce qu'on dit, parce que Laurent posait la question dans le générique. C'est quoi un film de cinéma indépendant, justement, Véronique Lebris?
C'est un film qui n'est pas financé par un gros studio, en fait, tout simplement.
et donc qui monte d'un financement qui est un peu plus traditionnel. Ce qui est intéressant dans ce débat malgré tout, c'est que le cinéma français a toujours été protégé, mais depuis sa naissance en fait, après la guerre, justement pour lutter contre l'invasion du cinéma américain, c'était un cinéma qui était protectionniste. Donc si on veut s'inscrire dans la tradition, dans le respect, n'est-ce pas, de ce qui s'est passé avant, enfin je sais pas, c'est le discours ambiant aujourd'hui, ce serait de le protéger, d'être assez protectionniste finalement, et pour bâtir, pour lui donner la possibilité d'émerger.
Et pour quelle raison le modèle est dépassé aujourd'hui, ou le modèle est menacé aujourd'hui?
Mais moi ce que je crois, c'est en fait il faut rappeler un chiffre important. Il est sorti 670 films cette année.
Trop pour Catherine Deneuve.
Je précise par parenthèse que c'est une phrase extraite de son contexte.
Je sais. Il va falloir qu'on rentre un peu plus en détail de ce qu'elle dit, parce que c'est plutôt intéressant ce qu'elle dit.
Oui, par ailleurs, il y a des choses très intéressantes évidemment, mais le problème c'est qu'effectivement, je pense qu'il y a une sorte de paradoxe aujourd'hui entre un sentiment que, en fait, il est assez facile de faire un premier film. Je mettrai des bémols par la suite, mais en tout cas que le système vertueux est toujours effectif, en fait, qu'on peut trouver des financements pour accompagner des jeunes cinéastes. Et je crois que finalement, peut-être la question à se poser serait plutôt sur après comment les accompagner en salle et comment leur faire rencontrer des spectateurs.
Oui, parce qu'il n'y a pas que le problème de la production, il y a le problème de la diffusion aussi.
Je pense que c'est, à mon avis, aujourd'hui, c'est peut-être le point qui articule toutes les problématiques.
Touché Leclerc, oui. Pardon, tout est un peu lié. Je pense qu'il y a une chose qui est très importante c'est vraiment important aujourd'hui de retrouver la solidarité justement entre les différents acteurs de l'indépendance. Donc ça veut dire les producteurs, les distributeurs, les exploitants, tous ces gens qui se battent en fait pour la même chose, mais qui aujourd'hui, vu que le système se tend, qu'il y a moins de spectateurs pour ces films-là en salle, la peur, on a tous un peu la peur au ventre et ça nous empêche parfois de créer de la pensée et de réfléchir à comment justement faire que ces films là existe et puisse être montré.
La diffusion, c'est aussi le problème, Michel Leclerc ?
Alors, moi, je dirais qu'il y a des spectateurs, déjà. Sûr. Ensuite, il faut que le système se mette en place pour qu'ils aient la possibilité d'aller voir les films.
Ça veut dire quoi ?
Ça veut dire que quand un film sort une semaine dans une salle, ça prive les spectateurs de pouvoir aller le voir, tout simplement. Donc déjà, il faudrait garantir...
Mais s'il sort une semaine dans une salle, c'est qu'on présuppose qu'il n'y aura pas plus de gens pour aller le voir.
Mais c'est un serpent qui se mord la queue. C'est-à-dire qu'il faut quand même garantir... Et je pense que là, la loi et la règle doit être là, un minimum d'exposition au film. Ça, c'est important. Et ensuite, et ça, on en reviendra, parce que là, tout tourne autour de, au fond, la rentabilité. Oui. Et la bonne question, c'est de savoir, est-ce qu'un film doit absolument être rentable ?
Je dirais oui, moi.
Et qu'est-ce que ça veut dire
oui,
être
moi, j'en ai,
si
moi, je m'en fous complètement.
Mais vous êtes réalisateur.
Oui, je suis bien d'accord. Mais l'histoire du cinéma est peuplée de films qui n'ont pas été rentables. Et heureusement qu'ils ont été faits.
Exactement. Et malgré tout, un des films les plus rentables de cette année, c'est L'amour flou de Roman Bouranger et de Philippe Rebaud. Ça n'a pas coûté grand-chose, ça a eu du succès. Donc la rentabilité, on peut très bien l'avoir sur des films. Et là, c'est du cinéma plus qu'indépendant.
Je me fais l'avocat du diable.
Non, mais c'est ce que dit Michel, je le comprends.
Elle est productrice, elle.
On s'en fout peut-être de la rentabilité. Et c'est normal que les réalisateurs ne prennent pas forcément ça en compte.
C'est un peu provocateur, pour dire qu'on a l'impression que c'est tellement obsessionnel aujourd'hui dans le cinéma.
Non, mais c'est surtout qu'en fait, cette notion. Elle est très complexe. C'est pas uniquement la rentabilité en salle. La rentabilité, elle devrait se regarder à l'aune de 20 ans. Enfin, je veux dire, un film, il est pas rentable juste la première année de sa sortie, ni uniquement sur la salle. Il y a les ventes internationales, évidemment, la télévision, le rachat des films ensuite sur différentes plateformes. Enfin, tout ça, on peut pas le résumer à une liste de films dans le film français. Enfin, ce serait trop facile.
Surtout qu'à une époque, on attendait le fameux premier week-end pour connaître les chiffres d'un film. Et alors maintenant, c'est carrément la séance à l'UGC Cinécité des Halles. Et à 9h15, le mercredi matin, à 9h15, tout le monde scrute les chiffres des différentes salles. Et effectivement, c'est ce que tu disais sur le serpent qui se mord la queue, c'est tente de prédire la vie, en tout cas en salle, d'un film grâce à juste une séance. En fait, effectivement, ça atteint ses limites, on va dire.
Et ce que disait hier Édouard Baird à la cérémonie de Cannes, j'ai beaucoup aimé de savoir, même personnellement, à quel moment, à quel chiffre on doit se sentir heureux. Et en fait, pour nous réalisateurs, c'est un truc complètement abstrait finalement.
Et vous, 400 000 entrées, du coup,
vous êtes heureux? Ouais, alors je me considère heureux, puis je me dis, j'aurais pu faire 500 000, évidemment. C'est une espèce de truc.
Mais bien entendu, mais qu'est-ce qu'il aurait fallu pour que vous puissiez faire plus, en fait? En dehors même de la qualité du film, c'est un problème de diffusion, un problème de salle, un problème de quoi? 400 000, c'est pas mal aujourd'hui.
Je sais pas si j'ai envie de rentrer dans mon cas.
Oui,
il aurait pu sortir sur plus de copies qu'il n'est sorti. Par exemple, le même jour que moi, il y a un film comme Chamboule tout qui sort sur 500 copies.
Qui est une comédie.
Qui est une comédie quand le mien sort sur 200. Donc il y a bien des décisions à ce moment-là de gens qui pensent que un film comme Chamboule tout peut beaucoup plus toucher un public populaire. Et ça, c'est un autre sujet que le mien.
François Barge-Prieur.
Non, mais je j'ai rien de spécial à rajouter. Je suis assez d'accord avec ce que tu dis. C'est un peu une question de pari. Et on a aussi vu des histoires de films. Je pensais à Dans la brume, par exemple. Il y a aussi des films qui, des fois, pour des raisons un peu surprenantes, semblent sacrifier. Hein. Je sais pas forcément, je connais pas à chaque fois le détail de la chaîne de ce qui s'est joué pour la sortie. Mais des films de genre ou des films qui, comme si au dernier moment, il y a quelqu'un qui dit, tiens, ça va pas plaire. Donc, du coup, on va couper le nombre de copies. Donc, du coup, il sera moins vu.
Donc, de toute façon, ça, c'est généralement le lot des films de genre. Moi, j'ai l'impression, pour aller dans le sens de Catherine Deneuve, c'est qu'il y a beaucoup trop de films qui sortent, mais elle explique la raison pour laquelle elle dit ça, c'est-à-dire des films qui ne sont pas écrits, qui la plupart du temps sont des téléfilms, où il n'y a pas un gramme de cinéma à l'intérieur, et avec des comédies bâclées qui sortent semaine après semaine. C'est ça qu'elle veut dire, en fin de compte.
Le problème, c'est
Caroline
que...
Bonmarchand.
Le problème, c'est que quand on dit il y a trop de films, souvent, en fait, on attaque aussi les plus petits films, c'est-à-dire on attaque les films à moins d'un million, parce qu'ils sont très nombreux, etc., alors que ces films ne prennent pas de place, en fait, sur les écrans, parce que les écrans n'en veulent pas, donc souvent, ils sortent...
Moi, j'avais l'impression qu'elle pensait surtout aux grosses comédies
Catherine
qui
Deneuve,
sortent, qui n'ont aucune...
Très certainement. Ouais. Mais je veux dire, ce discours-là, il n'est pas porté que par Catherine Deneuve, il est porté parfois par le CNC, par nos institutions, qui, elles, sont là pour défendre...
La diversité.
Très important de le rappeler, en fait. On a vraiment besoin, aujourd'hui, que les pouvoirs publics défendent et portent le message de la création.
Alors, qu'est-ce que vous attendez, justement, du point de vue des pouvoirs publics, Véronique Lebris?
Moi, j'attends aussi, justement, qu'ils misent beaucoup sur cette diversité, sur cette fameuse exception culturelle, en fait, qui était quand même la particularité du système français, notamment, enfin, vous le savez, je défends beaucoup le cinéma des femmes, et si ça se concentre comme ça, alors là, non seulement elles sont déjà pas très, elles sont loin d'être majoritaires dans le système, mais elles vont être complètement évacuées aux petits films. Enfin, disons, on va leur donner, elles auront les possibilités de faire des films à moins de 500 000 euros, quoi. Ça va être trié sur le rapport de force qui enfin, c'est le système libéral, c'est toujours comme ça, c'est quand même le plus fort qui gagne, quoi.
Michel Leclerc, sur trop de films qui sortent, parce que c'était quelque chose que vous pointiez dans la tribune que vous aviez co-signée.
Oui, alors moi,
mon point de vue,
je suis pas très fan de cette idée-là, parce que, au fond, la deuxième question qui vient tout de suite après, c'est qui va décider
des
films qui sont surnuméraires et des autres, quoi.
Faites appel à moi.
C'est toujours la même chose. Si le critère principal est uniquement la rentabilité, ça va tuer la diversité du cinéma français. Et justement, ce système formidable qui a permis à des auteurs très différents de faire des films très différents pour des publics très différents. Et c'est ça qu'il faut absolument préserver.
Sans ce système-là, par exemple, Jean-Claude Brisseau n'aurait pu faire aucun film, en tout cas les derniers.
Ouais. Et de notre côté, est-ce qu'on n'explique pas le fait qu'il y ait tous ces films-là, soi-disant trop nombreux, s'explique pas par le fait qu'on a multiplié aussi les cinémas, la diffusion, les multiplex, parce que ces films, finalement, indépendants, sont souvent soutenus par des salles d'arrêt et essai, donc là, ces cinémas existent, ou existent peut-être de moins en moins, mais existent quand même, et qu'il y a des multiplex avec des salles à remplir, et plutôt que d'avoir 3 salles avec Avengers, on est bien content d'avoir Chamboule tout aussi à côté de Avengers, par exemple, François Barge-Prieur.
Alors, d'abord, il faut rendre hommage aux salles d'arrêt essai qui sont, je pense, loin d'être en train de rendre les armes, mais au contraire, quand on va dans les régions qu'on découvre un petit peu le travail qui est fait par les exploitants pour faire vivre justement et pour aller chercher les spectateurs un par un et pour organiser autour de chaque projection un événement en faisant venir quelqu'un qui en parle ou etc. Ça, c'est un travail remarquable et je pense qu'il n'est pas menacé celui-là. Mais effectivement, ce que tu disais sur les multiplex pose problème, c'est-à-dire l'idée que quelqu'un va peut-être préférer mettre le même film sur 2 copies et donc monopoliser 2 salles pour le même film sans laisser sa chance aux autres. Mais c'est aussi là, on en revient à la question de la rentabilité, c'est tout simplement parce que la personne qui tient le multiplex pour le coup doit faire du chiffre, enfin ce qui peut se comprendre aussi de son point de vue parfaitement. Mais c'est peut-être aussi des gens qui sont moins accompagnés.
Il faut les aider à prendre des
risques en fait. Réalité du terrain. Par exemple, une expérience toute simple, le jour de la sortie du film d'André Téchiné avec Catherine Deneuve, j'étais à Montpellier, je prenais quelques jours de vacances, comme il n'y avait absolument rien à faire, il pleuvait toute la journée, je suis allé au cinéma le soir, on était 4 dans la salle, dans un multiplex, pour aller voir le Téchiné. C'est quand même dingue.
Mais je crois que c'est ce que tu, peut-être tu disais que...
Il n'était pas dans les salles de d'art et essai, d'ailleurs, qui ne sont, il y en a même, presque même plus à Montpellier. Ouais,
mais c'est peut-être une question de, effectivement, d'aller chercher les gens et de les inciter aussi. Peut-être que tout simplement, il y a aussi quelque chose qui, enfin, une courroie qui, de transmission qui serait un peu faussée entre les multiplexes et les prescripteurs, c'est-à-dire la presse aussi. Enfin, on a, je pense, aussi un rôle à jouer. Peut-être tout simplement, des gens ne sont pas au courant que certains films existent. Franchement, même ici, on est tous des cinéphiles sur les 660, enfin, des cinéphiles, pardon, sur les 670.
Oh, des cinéphiles aussi, c'est
des films, voilà. Non, mais sur les 670 films, très concrètement, est-ce qu'on en connaît plus de 200? Je suis pas sûr. Donc, il y a peut-être aussi tout, voilà.
Maintenant, ça doit pas nous empêcher, nous, auteurs-réalisateurs, de réfléchir à cette dichotomie qui est en train de s'opérer de plus en plus entre les salles art et essai qui sont souvent fréquentées par des seniors, et les multiplexes qui sont souvent fréquentés par des jeunes, etc. Et souvent des films américains, des grosses productions. Et moi, ça me questionne beaucoup, ça. C'est-à-dire, je me dis, mais moi, en tant qu'auteur, j'aimerais bien faire des films qui s'adressent au public, à un public plus large, quoi, que je veux pas ne m'adresser qu'à des gens déjà qui pensent la même chose que moi. Je voudrais vraiment essayer de penser ça un peu. Non, essayer de
mais
toucher.
C'est vrai que ça tient à la répartition des salles, en effet, et des cinémas, comme vous le dites.
Ça tient au film même aussi. C'est-à-dire qu'il faut réfléchir aussi à des cinémas comme le faisait si bien Spielberg dans les années 80, c'est-à-dire aussi est-ce qu'il y a un cinéma français qui s'adresse aux adolescents par exemple, digne de ce nom, je veux dire.
Mais c'est compliqué, parce que, enfin, je vais prendre un cas personnel, mais moi j'ai produit un film qui s'appelle L'heure de la sortie,
donc de Sébastien Marnier.
Sébastien Marnier, qui vient de gagner le prix des lycéens, le prix Jean Renoir des lycéens. Et nous, on s'est beaucoup battu pour ça en disant, on veut que ce film soit montré à des adolescents, à des jeunes, etc. Mais c'est aussi le marketing qui est pas tout à fait adapté. C'est-à-dire que, comme on sait qu'aujourd'hui, le cinéma qui marche, c'est le cinéma des seniors, bah, du coup, on va déjà essayer de capter, en priorité, ce public-là. Et ensuite, on n'a pas vraiment les armes pour aller chercher les jeunes, pour diffuser la bande-annonce sur Internet, enfin voilà, et on a tous des enfants et on voit très bien comment ça se passe.
Et ça se passe sur le net.
Exactement.
Et ça se passe aussi à la radio. Alors le cinéma indépendant, lui, il connaît, il était père de famille dans Ma vie avec James Dean de Dominique Choisy, film indépendant s'il en est. Avec lui, nos nuits sont toujours plus bleues. Bertrand Belin fait un caméo dans Le Énervé.
Elle est partie. C'est rien de le dire, pas sur un coup de tête. Elle est partie, c'est rien de le dire, pas sur un coup de tête. Sur un coup de tête, elle fait les 100 pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Ouvre la fenêtre, le ciel est noir d'oiseaux. Oh, cette chicane. Oh, cette chicane. La vérité nue, la vie crue, les nuits. Le bruit et la fureur, le ciel a changé, il a changé de place. Oh. Le ciel a changé, il a changé, enfin de place. Un vague d'âme, oh, c'est chouquin. Un vague d'âme.
Ostchouka. Ostchouka.
Bertrand Belin sur France Inter, il sera en concert près de chez vous au Fnac Live à Paris le 4 juillet, au Franco de La Rochelle le 10 juillet. Et en attendant de le retrouver dans de nouvelles aventures cinématographiques, on repart tout de suite du côté du cinéma indépendant.
Rendez-vous.
C'est inouï d'être là. Et pourtant ça existe encore. Chauffe Aurélien, ça existe la salle de cinéma. Ce besoin d'être ensemble. Parce que le cinéma, ça n'est pas juste des images meilleures que d'autres. Des images pures contre l'impur. Ça n'est pas juste... Le grand écran contre le petit, lever les yeux plutôt que les baisser. Le cinéma c'est la salle de cinéma. C'est être ensemble quoi, c'est vrai. Sortir de chez soi, ce miracle-là, plutôt que de rester là, à manger des pizzas en regardant Netflix.
Laurent Goumard.
Ne rentrez pas chez vous ce soir. Bienvenue au 72e Festival de Cannes tout simplement.
Sur France Inter.
Il est vraiment formidable, Édouard Baird. Le cinéma indépendant, ça tourne ou ça coupe. C'est le sujet du Énervé ce soir, au moment où s'ouvre donc la 72e édition de Cannes. Michel Leclerc, vous allez à Cannes demain ou vous allez rester devant Netflix et bouffer des chips?
Je vais rester devant Netflix.
Quel provocateur.
Que je n'ai pas.
J'en étais sûr. Tout le monde va partir, oui.
Ou en tout cas,
Caroline Bonmarchand, productrice.
Oui, Cannes donne plutôt un bon signal, enfin très réjouissant d'ailleurs, parce que à la fois dans la programmation des films, enfin dans le choix des films,
il y a plein de femmes.
Il y a des femmes.
C'est pour vous, Véronique
Lebris.
Il y en a moins que l'an dernier, donc.
Il y a quatre femmes en compétition. Enfin,
oui.
En
tout cas, c'est vrai. Il y en a une de plus en compétition officielle, mais partout ailleurs, il y en a moins que l'an dernier.
Ah, ils ont fait une super promotion parce que alors une super communication. Moi, c'était qu'avec ça.
Moi, j'ai passé ma journée d'hier à faire les comptes. Vous pouvez aller voir sur cinéma.
Vous faire confiance.
Oui, vous pouvez.
Mais en tout cas, voilà, il y a un choix de défendre le cinéma indépendant, justement, les auteurs, les réalisateurs, à la fois dans le choix des films, mais aussi dans le choix des jurys. On a un jury de la compétition internationale qui est composé uniquement de réalisateurs, à l'exception d'une jeune comédienne. Mais voilà, ça donne quand même un signe de désir de défendre ça de la part de Thierry Frémaux et c'est plutôt réjouissant.
Et le fait que Netflix n'ait toujours pas le droit de citer au Festival de Cannes, ça vous ravit les uns et les autres, productrices, cinéastes et journalistes?
Moi, je suis assez étonnée. Enfin, je sais que tout le monde parle de Netflix. Moi, je ne l'ai pas. Donc,
c'est vous, François.
Moi, je ne l'ai pas non plus. Non.
Non, moi, je l'ai, ouais.
Ah, la productrice, là.
Mais tout le monde dit.
Mais je ne la regarde jamais parce qu'il n'y a rien.
Ah, mais voilà, c'est ce que tout le monde dit. C'est ce que tout le monde dit. Qu'il y a plein de séries. Effectivement, que si on aime les séries, c'est formidable. Et mais encore cinéma, c'est vraiment très. L'offre est très pauvre.
J'ai vu Dutch Leyland. Je peux vous dire que c'était quand.
Non, mais ça, c'est sur Amazon.
Non, mais chaque fois, si je me trompe, ouais, c'est la même chose. Véronique Lebris, on y va, continuez.
Non, mais je disais juste que tout le monde, tous ceux qui ont Netflix, disent qu'en fait, ils regardent des séries, mais ils ne regardent pas de cinéma, que l'offre est très, très pauvre en cinéma. Alors, ça va peut-être changer, hein, ce n'est pas du tout le problème. Mais je ne sais pas pourquoi on place ça comme concurrent. Et il y avait une productrice qui avait fait une proposition que j'ai trouvée, moi, très intéressante, qui proposait d'accepter Netflix et consorts et de faire une compétition à part. C'est-à-dire de faire la sélection officielle, la compétition pour les films qui sortent en salle, puisque c'est le propos du cinéma, et de faire une compétition un petit peu à part. Enfin, juste d'abord, c'est un peu vexant pour eux, donc ce serait assez rigolo d'inverser le rapport de force. Et d'autre part, de les dire, venez, mais vous êtes à part, en fait. Vous êtes dans une autre cour.
Moi, j'avoue, je n'arrive pas à comprendre qu'ils soient à part du cinéma. C'est du cinéma, qu'on le voit en salle ou pas, franchement.
Ils ne font pas de cinéma.
Non, le cinéma, c'est quand même pour la salle.
Quand on va en salle et qu'il y a des gens qui téléphonent à côté de vous, moi, je préfère rester chez moi. Hein. Je vous le dis tout de suite.
Non, c'est juste pour tendre le coup à une idée peut-être un peu reçue. C'est en décembre, il y a une étude aux États-Unis assez intéressante qui justement montrait que en fait, on a toujours un discours qui dit plus les gens regardent Netflix, moins ils se déplaceront en salle. En fait, c'est vraiment faux. C'est-à-dire qu'ils ont pris un grand panel de personnes et parmi ceux qui regardaient beaucoup Netflix, en fait, plus ils regardent Netflix, plus ils se déplacent en salle. Et à l'inverse, ils prennent des gens sur le critère de la salle. Ceux qui vont beaucoup au cinéma sont aussi des gens qui consomment beaucoup Netflix. En tout cas, je pense qu'il ne faut pas le voir comme un ennemi sur cet axe-là. Quoi. Après, c'est d'autres questions plus économiques, mais je ne suis pas sûr que ce soit contradictoire que les deux existent.
Et juste pour donner une information, quand même, le film Elephant qui a reçu un prix à Cannes était un téléfilm HBO à l'époque aux États-Unis. Donc c'était pas un film destiné à la salle,
mais
qui sortait en salle chez nous, mais qui était à l'origine un téléfilm. Donc la preuve que bon, bref. Avant de laisser les professionnels,
Le problème est ailleurs. C'est-à-dire qu'il peut y avoir de la. Vous avez raison. Je pense que quand la VHS est arrivée, on a eu peur, etc. Oui. Mais le problème est ailleurs. Le problème, il est que ça change le fonctionnement de la production. C'est ça que fait Netflix. C'est-à-dire que maintenant, il y a tellement d'argent dans des plateformes comme ça qu'il va y avoir bientôt des auteurs maison qui vont avoir un contrat à l'année pour Netflix, des films qui restent prisonniers de Netflix à vie et qu'on ne peut pas voir ailleurs. Donc, faut s'abonner à Netflix et tout ça. Et ça change complètement le raisonnement de la diversité de la production. Et
surtout, si Netflix faisait appel à vous, vous signeriez ou pas, Michel Leclerc?
Je sais pas.
Cette hésitation en violon.
Non, je veux pas.
Et pourquoi
faire,
pas d'ailleurs. Il y a
J'en sais rien. Tout dépend du projet et tout ça. Mais en tous les cas, je ne signerai certainement pas un contrat qui est en dehors de la légalité française.
Parfait.
Alors, qu'est-ce que vous attendez justement, Caroline Bonmarchand, de cette rencontre le président de la République a reçu certains professionnels lors d'un déjeuner, c'était lundi, pour dire qu'il fallait tous se mettre en rang de bataille, justement, pour gagner ou ne pas perdre face, justement, à ces mastodontes internationales dont on citait Netflix, Amazon.
Comment vous regardez ça? Il est rigolo, lui, parce que c'est à lui de donner la ligne, quoi. C'est à lui de donner un cap. Au lieu de dire on faut se mettre tous ensemble, mais quelle est la politique du gouvernement en matière culturelle?
Il vous consulte, de toute façon il fait que ça. Donc il
non mais c'est ça, il consulte, mais il y a besoin quand même de d'idées fortes et de lignes directrices fortes dans cette matière.
Caroline Bonmarchand, productrice.
Le président a certainement son avis. Moi, j'ai pas été conviée à ce débat, mais en tout cas, ce qui est important pour moi, c'est surtout que le CNC, qui est notre maison, c'est-à-dire le CNC, qui est la maison du cinéma indépendant, des réalisateurs, des producteurs, etc., accompagne en tout cas les transformations qui arrivent avec l'arrivée justement donc des plateformes et pas Netflix, qui sont pas comme tu le disais, Michel, qui sont pas des ennemis, mais qui doivent rentrer dans la législation et nous permettre de conserver notre système.
Qu'est-ce que vous, François Barchepriller, à Cannes, avec l'ACID, donc l'Association pour le cinéma indépendant, vous allez organiser ce que vous appelez une boîte à idées. Une boîte à idées, ça veut dire...
Vous jouez à Emmanuel Macron, vous aussi.
Oui, bah, tout à fait.
Qu'est-ce que vous en attendez?
Je manque d'idées, donc je compte sur les autres pour me donner les leurs, voilà. Non, déjà, je suis très content qu'on puisse s'associer avec l'ACID parce que ça casse aussi un vieux cliché qui voudrait que les critiques et les cinéastes n'ont pas le droit de dialoguer. Enfin, je sais pas. Donc ça, je suis très content qu'ils aient répondu et qu'ils à cette idée. Et non, là, pour l'instant, c'est quelque chose de très humble, que je propose. D'ailleurs, vous êtes tous les bienvenus pour venir y participer. C'est vraiment poser les bases d'un débat, ce qui effectivement se fait sous plusieurs formes en ce moment, puisqu'il y a beaucoup de tribunes et il y a beaucoup de gens, je pense, qui pensent à 90% la même chose.
Mais chacun de son côté.
Et j'aimerais bien que ces gens qui passent 90% de la même chose de leur côté puissent tout simplement se réunir pour en parler, ce qu'ils font déjà, hein, parce qu'il y a beaucoup de gens qui font plein de choses. Donc tout simplement, moi, j'ai ouvert deux créneaux vidéo de 4 heures chacun, hein, un demain après-midi et un autre lundi 20 mai matin, où ma caméra sera ouverte. Alors ceux qui n'aiment pas être filmés, je ne prendrai que le micro, il n'y a aucun problème, juste pour récolter justement des paroles d'exploitants, de distributeurs, de producteurs qui souhaiteraient venir participer à la réflexion et initier quelque chose, évidemment, qu'on débriefera après Cannes, hein. Le but n'est pas du tout de buzzer ou de se servir de la temporalité de Cannes, c'est vraiment de poser les bases et pouvoir rencontrer des gens qui ne sont pas forcément sur la région parisienne, puisque moi je suis de la région parisienne, et donc de pouvoir un peu...
Quelles seraient les premières mesures à prendre, en fait, d'après vous, Michel Leclerc?
Déjà de garantir absolument le droit moral des auteurs, par exemple, que les plateformes ne soient pas un cheval de Troie pour une remise en cause
du final cut.
Ouais. Voilà, et ce qui risque d'arriver, ça me paraît essentiel. Ensuite, qu'il y ait, par exemple, là je parle que pour les plateformes, qu'il y ait une certaine transparence. De savoir, je sais pas, tel film ou telle série, combien de personnes l'ont regardé, et qu'il y ait une rémunération en fonction du clic, enfin en fonction de, voilà, que ça soit pas une espèce de nébuleuse,
opaque,
et considérer que tout ce qui est à l'intérieur de Netflix est un contenu, ou Netflix ou d'autres plateformes, parce qu'après il y aura Canal+, il y aura tout ça, mais des œuvres. Donc le respect de l'œuvre par aussi sa valorisation. Ça me paraît un enjeu important.
Juste une dernière question. Canal+ va continuer du côté du cinéma ou c'est menacé comme semble...
Ben, on l'espère.
Ouais. Ben, l'espérance, ça fait vivre, mais enfin...
En tout cas, Canal+ continue aujourd'hui. On verra ce qui se passe dans les prochaines années. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut absolument que ces plateformes, on les contraigne à avoir les mêmes obligations en fait, que Canal+. Et là, ce sera peut-être aussi une bonne nouvelle. Elles pourront participer au financement des films indépendants.
Et ben voilà, une bonne nouvelle attendue. Merci à vous toutes et merci à vous tous. Michel Leclerc, La lutte des classes, ça vient de dépasser les 400 000 entrées, alors faut continuer. Le film est toujours à l'affiche en salle partout en France. Caroline Bonmarchand, en attendant le prochain film produit par Avenue B en salle. Je signale que l'on peut suivre toute l'actualité du syndicat des producteurs indépendants sur le site spi.org. François Barge-Prieur, je renvoie sur le site fichesducinema.com et je signale que vous donnez donc rendez-vous demain et lundi à Cannes pour votre boîte à idées sur le cinéma indépendant. Et enfin, Véronique Lebris. L'actualité du cinéma, c'est aussi sur le webzine Cinewoman, ciné-woman.fr.
If a man has money today, people don't care if he has Coco Bay. If a man has money today, people don't care if he has Coco Bay. He can commit murder and get off free. Live in the governor's company. But if you are poor, people tell you, shoo, a dog is better than you. Into the store, the boss will shake his hand at the door. Carlton laughs to take down anything. Whiskey cloth earring and diamond ring. Send it to your home on a motorbike. You can pay the bill whenever you like. And not a soul will ask you a thing. They know very well that money is king. Policemen will take him down too. You see how a dog is better than you. So if a man has money today, people don't care if he has Coco Bay. If a man has money today, tell you, shoot, a dog is better than you.
Alors c'est triste de finir comme ça, mais oui, Money is King, c'est Leila Makkala qui le chante, la programmation pragmatique, signé Jean-Baptiste Audibert. Eh bien le NRV c'est fini pour aujourd'hui, cette année c'est chaque jour hein, dès 18h en avant-première sur franceinter.fr, en podcast, 22h minuit à l'antenne comme tout le monde, on reste en lien, il y a Facebook, Twitter et Instagram pour nous rejoindre avec le hashtag NRVFI. Marion Lelay et Juliette Medevel ont signé la réalisation, Virginie Rosic, Benoît Lagan, Corinne Valente, Margot Page et Caëtan Lévy, c'est pour la préparation. À la technique ce soir, Gilles Gaillard et Guillaume Roux, demain on se retrouve et on sera tous et toutes là avec elle. Ah oui, ce sera sa toute première fois dans le NRV. Jeanne Mas, Top 50, Star 80. À ses côtés, Michel Fitoussi remaquille Elena Rubinstein. Et dans le NRV, la suite, voyage en zone interdite, le tourisme, une aventure de tous les dangers. Tout est dit. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter le bonsoir. Alors à demain.